depuis que la République existe, elle a imposé des prénoms tirés du calendrier des saints.
Le but avec les juifs pendant la guerre, ça a bien été de les exterminer. Et ça introduit par exemple une différence fondamentale avec l'esclavage des Noirs, où c'était exactement le contraire. C'est-à-dire l'idée, c'était au contraire qu'ils soient en bonne santé.
Dès qu'il est question d'un référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Et Mussolini et Hitler.
Le 13 vendémiaire s'accomplissait. Bonaparte mitraillait les sections sur les marches de l'église Saint-Roch. La convention avait jeté les yeux sur mon père pour la défendre. Mon père n'était pas à Paris, Barra proposa Bonaparte. Bonaparte fut accepté. Cette heure qui sonne une fois, dit-on, dans la vie de tout homme et qui lui ouvre l'avenir avait infructueusement sonné pour mon père. Il prit la poste à l'instant même, mais n'arriva que le 14. Il trouva les sections vaincues et Bonaparte, général en chef de l'armée de l'intérieur. Mémoire d'Alexandre Dumas.
Au crible de l'histoire, Maxime Basile.
Décembre 1775. Les troupes de Richard Montgomery marchent sur le Québec. Ce sont des rebelles venus des 13 colonies. Le Canada, qui avait échoué à demeurer français, essaie aujourd'hui de rester britannique. Mais Montréal est déjà tombé. La nouvelle vient d'arriver en France. On y apprend, par la même occasion, que le très haut et très puissant seigneur Messire Alexandre David de la Pailleterie est de retour dans sa seigneurie de Bielleville après plus de 20 années d'absence. D'où vient-il ? De l'île de Saint-Domingue, monsieur le marquis était allé chercher fortune, il revient avec un vigoureux garçon de 13 ans, né d'une esclave qu'il avait affranchie, le futur général Dumas, Alexandre Dumas grand-père. Il est le premier général d'ascendance africaine de l'armée de la métropole, le seul dont le nom figure sur l'Arc de Triomphe.
Héros des guerres de la Révolution et de l'expédition d'Égypte, le général meurt, alors que le jeune Alexandre n'a que 4 ans. De son propre aveu, Alexandre Dumas ne guérira jamais de cette vieille et éternelle douleur de la mort de son père.
En effet, enivré par son prestige militaire, le général Dumas se permet de tenir tête à Bonaparte pendant l'expédition d'Égypte où Dumas, après avoir acquis le surnom de Diable Noir chez les Autrichiens déconcertés, est appelé ange exterminateur par les Égyptiens effrayés. Mais inutile de chercher une statue du général Dumas en France, il n'y en a pas, ou plutôt il n'y en a plus, les nazis l'ont déboulonné et fondu. Cette pratique, de temps en temps réveillée chez les Athéniens, que les Romains appelaient la damnatio memoriae, s'est vue réactiver peu avant le meurtre de George Floyd aux États-Unis et s'est répandue un peu partout à travers le monde.
La statue de Victor Schœlcher, trônant devant l'ancien palais de justice de Fort-de-France, renversée.
Another baptism by paint for this downtown statue of Sir John A. Macdonald.
Des images comme celle-là, on en voit depuis plusieurs jours déjà.
La statue di Indro Montanelli che è stata imbrattata.
La statue de Charles de Gaulle a été maculée de peinture jaune.
They are power washing the Christopher Columbus statue, which is right in front of Union Station.
The statue of Winston Churchill.
Nous parlons du Ghana ou d'une statue du Mahatma Gandhi.
La statue de Jules César se trouvant à Velzec. Flandre orientale a été vandalisée dans la nuit de samedi à dimanche.
Et comme un peu partout à travers le monde, le Premier ministre français Édouard Philippe est invité à réagir.
L'histoire de France est un bloc. Dans la Révolution, nous prenons Condorcet et Saint-Just, Danton et Robespierre, Valmy et la Vendée, le général Dumas et le général Bonaparte. Vouloir procéder à une forme d'épuration mémorielle me paraît aussi dangereux d'une certaine façon que vouloir procéder à d'autres types d'épuration. Nous devons regarder notre histoire en face et j'ai été profondément choqué qu'à Fort-de-France, on déboulonne les statues de Victor Schœlcher.
Mais le Premier ministre peine à convaincre, le journaliste Jean-Michel Apathy s'est fermement placé dans le camp des sceptiques.
Mais la question qui nous est posée, depuis la mort de George Floyd aux États-Unis, c'est la question de la mémoire par rapport à l'histoire. Quels faits dans l'histoire passée? Quels sont les faits que nous sélectionnons? Pourquoi Colbert à l'Assemblée nationale? Colbert a constitué sa fortune de manière malhonnête. C'était un prévaricateur, quelqu'un qui a puisé dans les caisses de l'État. C'est ça l'exemple que l'on veut promouvoir? Colbert, c'est l'auteur du Code Noir. N'oublions pas les avenues Bugeaud, les écoles Bugeaud, un criminel de guerre. Pourquoi sélectionnons-nous ces gens-là? C'est ça la question.
Alors que les uns fustigent une tentative de réécriture de l'histoire, les autres répondent que l'histoire est réécrite en permanence par les historiens. Mais cette réponse révèle une confusion dans les termes, car un historien ne réécrit pas l'histoire en fonction de l'évolution des mentalités, mais grâce à la découverte de nouvelles archives ou d'une meilleure exploitation de celles déjà connues, comme l'explique l'historien canadien Jonathan Luvernois.
J'évoquais des manuels d'histoire, mais dans les années 60, 50, au Québec, on a enseignait les saints martyrs canadiens, les jésuites qui sont brûlés par les Amérindiens. Eh bien, ça, c'est l'historiographie. Mais je vous dirais qu'ici, il y a une distinction à faire importante entre la commémoration et la discipline historique. La commémoration, ça appartient à l'espace, à la société civile qui décide finalement qu'elle veut honorer quelqu'un ou elle refuse d'honorer quelqu'un. Et l'historien doit enregistrer les variations, proposer une saisie des savoirs et des sensibilités d'un temps.
Le rôle de l'historien est alors d'éclairer le débat en situant l'action des hommes d'antan dans le contexte de leur temps. Texte sans contexte n'est que prétexte, dit l'adage. Or, que nous dit l'histoire de ces événements?
Colbert a constitué sa fortune de manière malhonnête. C'était un prévaricateur.
Déjà, il faut savoir que Colbert n'était pas le premier à s'être servi dans les caisses. Fouquet avant lui, d'autres avant Fouquet, dont le plus connu reste Jacques Coeur, argentier de Charles VII, tout aussi bien commémoré et vandalisé. L'on notera d'ailleurs la sublime pertinence du mot colonialiste, tagué en lettres rouges au pied de la statue d'un homme qui est mort 77 ans avant la naissance de la première colonie française. Quant à l'esclavage, c'était la mode au XVIIIe siècle en Afrique, dans les colonies d'Amérique ou encore dans les sociétés musulmanes. Des dirigeants africains vendaient ces hommes et femmes pour débarrasser leur société de ces éléments perturbateurs. Les marchés aux esclaves des Arabes étaient fournis de personnes jugées comme traîtres et d'habitants de pays conquis par l'épée.
Veuillez vous nommer, madame.
Princesse Haïdée de Janina. Fille du sultan Ali Pacha.
Impossible, c'est une imposture. Et pourquoi une imposture? Parce que les Turcs ont passé au fil de l'épée toute la famille du sultan.
C'est exact, monsieur. Ils ont tous été égorgés. Ma mère, mon père, mes deux frères. Moi seul, j'ai échappé à cette horrible tuerie. Peut-être parce que j'étais une fille.
De la pitié chez les Turcs! Cette femme raconte n'importe quoi!
La vraie pitié eût été de me tuer. Au lieu de faire de moi une esclave.
Si vous êtes une esclave, votre témoignage est irrecevable.
Elle ne l'est plus, monsieur. Je l'ai rachetée et affranchie.
Madame, puisque le comte de Monte Cristo garantit la validité de votre témoignage, vous pouvez parler.
Esclave ou pas, encore faudra-t-il qu'elle puisse prouver qui elle prétend être ?
L'éditorialiste parle ensuite de Bugeaud lié à la colonisation en Algérie. On parle aussi de Gallieni en présentant leur gestion très brutale de certaines crises comme de la violence raciste. Or, l'histoire montre qu'il s'agit du comportement général de ce temps-là, peu importe la couleur de peau de la personne qu'on avait devant soi. Les actes de Bugeaud ou de Gallieni ne sont en rien différents de ceux de Thiers à Paris ou de certains généraux de la Révolution en Europe. Qu'on lise un peu l'histoire de la Commune, il y a des choses intéressantes. Des déportations en Outre-mer, des semaines sanglantes, 30 000 morts, selon l'historienne Edith Thomas, ce qui n'empêche pas d'avoir des lycées Thiers à Marseille, des rues Thiers à Paris, à Valence, à Toulon et dans d'autres lieux.
Celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France.
On pourrait aussi lire l'histoire des guerres de religion, de l'Inquisition. Mais le plus édifiant, pour ceux qui ont moins de temps, se passe pendant la Révolution. Ce jour-là, le citoyen Danton, accusé de prévarication lui aussi, comme quoi, le citoyen Danton, les flammes dans les yeux et la République au corps, court à la tribune et avec une chaleur glaçante, il demande des morts.
Alors, réponse, citoyen, rendre coup pour coup, je demande 100 000 têtes. Faites tomber.
La terreur lui donnera bien plus que 100 000 têtes, dont la sienne propre, ce qui ne l'empêchera pas d'avoir des statues partout en France, des lycées à son nom, des rues Danton à Paris, Lyon, Marseille, Tours, Bourges, etc. Vendémiaire en deux, c'est-à-dire septembre 1793, Jean-Baptiste Carrier est délégué par la Convention pour aller mater la révolte des Vendéens. Il fusille, il pend, il guillotine, mais Carrier a un problème. Les affaires ne vont pas assez vite et les prisons ne désemplissent pas. C'est alors qu'une idée se présente à son cerveau. Donc un jour, ou plutôt une nuit, le citoyen Carrier fait embarquer 94 braves prêtres à bord d'un bateau, les emmène au beau milieu de la Loire et fait couler le bateau au fond du fleuve. Ainsi commence une série que l'histoire appellera les Noyades de Nantes. Ah, quel torrent révolutionnaire que la Loire, se félicitera-t-il auprès de la Convention. Les citoyens conventionnels applaudissent. Ils sont tout aussi contents de Westermann, qui massacre sans pitié en Vendée. Il entre dans mes projets et ce sont les ordres de la Convention nationale, écrit-il à un collègue, d'enlever toutes les substances, toutes les denrées, les fourrages, tout en un mot dans ce maudit pays, de livrer aux flammes ces bâtiments et d'en exterminer les habitants. Bugeaud n'a rien dit de mieux, cela n'empêchera pas à ce citoyen d'avoir sa petite rue bien calme à Pantin, dans la région parisienne, ni à Robespierre, responsable en chef de tout ça, d'avoir son lycée à Arras, sa station de métro à Paris, ses rues à Brest, Saint-Herblain ou encore Fort-de-France. Un patron de presse du 21e siècle peut fièrement clamer son admiration pour Marat et pour François Mitterrand, même si Robespierre n'a pas démérité, le plus fort c'est Danton. Et c'est à eux tous qu'il rend hommage à l'occasion du bicentenaire.
Mesdames et messieurs, si les Français doutent parfois d'eux-mêmes, qu'ils écoutent la rumeur qui monte des quatre coins de la planète. Partout où l'on se bat pour l'indépendance nationale, pour le droit d'un peuple à disposer de lui-même, pour l'avènement des pays pauvres au partage des richesses, pour la liberté de penser, pour l'égalité des droits, c'est le message de la Révolution française qu'on entend. Et chacun dans le monde le sait. La présence en grand nombre à Paris, dans 3 semaines, de chefs d'État et de gouvernement des plus anciennes démocraties et de pays en lutte pour leur vie et leur développement témoignera pour l'œuvre accomplie depuis le jour où, à Versailles, je cite, les députés errant dans les rues ne cherchaient qu'à se rencontrer pour se réunir, ou quelques hommes à l'approche d'une horrible tempête et dans un lieu sans défense qui pouvait devenir leur tombeau, sauvèrent une grande nation. Ainsi parlait Mirabeau.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla 1 milione, 1 milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di
S'il est toujours bon de connaître une ou deux citations historiques et quelques éléments biographiques peu glorieux sur un personnage, il apparaît que jouer les Saint-Pierre du paradis de l'histoire suppose un peu plus de méthode, d'approfondissement et de recul. Car on sait aujourd'hui que l'histoire de l'humanité est dominée par les guerres, des guerres de conquête, d'indépendance, de religion ou de civilisation, et que les Gandhi et autres Luther King y font figure d'exception, car d'Alexandre le Grand au Che Guevara, c'est par la guerre que les hommes se sont illustrés. L'unique différence, c'est le camp pour lequel ils ont combattu et qui, pour souligner leur dévouement à la cause, leur érige une statue et appose leur nom sur un bâtiment public. C'est la mémoire. Le rôle de l'histoire n'est pas de dire s'il faut gratter ou pas, déboulonner ou non, mais de permettre une attitude cohérente à ceux qui y tiennent. Les valeurs de tolérance et de dignité humaine étaient mal connues de l'homme des siècles précédents. Qu'il fût africain, européen, asiatique ou américain, le juger à partir de ces valeurs relève donc du jugement rétroactif. Il était différent parce qu'il vivait dans un monde différent et, pour citer à nouveau l'historienne Claude Gauvard, ses valeurs ne sont plus les nôtres. C'est donc avec un regard qui accepte les différences qu'il faut considérer l'histoire de ses combats.